Montréal vous invite à la première québécoise du film Sweet Mickey pour président, en ouverture officielle du 11e Festival international du film Black de Montréal, le mardi 29 septembre au cinéma Impérial à 19h. Sweet Mickey pour président mettant en vedette Michael Martelly, Wyclef Jean, Bill Clinton, Sean Payne et Ben Stiller, en présence du producteur Price Michel, fondateur du groupe Fugees. Billets en vente sur montrealblackfilm.com au coût de $25. Un événement de la Fondation Fabienne Collat.
Salut, t'es un jeune créateur professionnel? T'as un spectacle à proposer dans n'importe quelle discipline des arts vivants? T'as jusqu'au 30 octobre pour le faire à vuesurlarelève.com. Depuis 1996, Vue sur la Relève a servi de tremplin au premier spectacle d'Alex Nevsky, Pierre Lapointe, Vincent Vallière, Fred Pellerin, Evelyne de la Chenelière, Carquois, Lisa Leblanc, moi-même, Sarah Dufour et de nombreux autres. Grâce à Vue sur la Relève, ton spectacle pourrait aussi prendre la route du Québec et d'ailleurs. Présenté par Loto-Québec en collaboration avec Québécois, Vue sur la Relève se tiendra à Montréal du 5 au 16 avril 2016.
Global News Montréal vous invite au 11e Festival international du film Black de Montréal du 29 septembre au 4 octobre. Découvrez les plus grands films Black et divers invités, dont Price Michel des Fugees, Martin Luther King III, fils du Dr. King, Paul Haggis, Suleiman Cissé, ainsi que des films palpitants des quatre coins du globe. Achetez vos billets ou carte passeport sur montrealblackfilm.com. Du 29 septembre au 4 octobre, au Quartier Latin, à l'ancien cinéma ONF, à l'Impérial et à Concordia, infos et programmation montrealblackfilm.com. Un événement de la Fondation Fabienne Collat.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Pop en stock. Pop en stock est un portail unique dans le monde francophone, se déclinant sous la forme de revues web, podcasts et collections d'essais. Toutes les semaines au podcast, nous plongeons dans un phénomène de la culture populaire pour l'analyser et comprendre comment il nous affecte dans nos vies quotidiennes. Bonjour tout le monde. Non, ce n'est pas Jean-Michel Berthiaume au micro. Je m'appelle Hélène Lorrain. Je suis votre nouvelle co-animatrice de Pop en stock. Je vais animer les épisodes, en fait, une semaine sur deux, et l'autre semaine sur deux sera toujours assurée par mon ami et collègue Jean-Michel Berthiaume. Un petit mot pour me présenter. Je suis chercheur en médias et culture avec une spécialisation en musique populaire avec les années. Et l'épisode d'aujourd'hui est vraiment parfait. Nous allons parler de Queen pendant une heure, le groupe britannique. Et je dois avouer que Queen, durant mon adolescence, était mon groupe fétiche, un groupe vraiment... J'étais complètement obsédée par eux. Et donc, je suis vraiment, vraiment enchantée de faire cette heure à propos de Queen. Et je ne suis pas seule. J'ai avec moi trois invités. André Péloquin, journaliste. Bonjour. Allô. André, merci beaucoup d'être ici.
Ça fait plaisir pour parler de Queen, toujours au rendez-vous.
Et on a aussi Hugo Prévost, journaliste et mélomane et même critique bientôt.
Oui, bonjour Hélène.
Et Martin Sasseville, sociologue et professionnel de recherche et aussi un grand mélomane.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être ici ce soir.
Ça me fait plaisir.
Une petite introduction à propos de Queen. C'est un groupe qui a œuvré de 1970 à 1991. Le 24 novembre 1991, Freddie Mercury, le chanteur de Queen, est décédé des suites d'une bronchopneumonie causée par le virus du sida. Et on peut dire que Queen a continué après ce temps-là, même qu'ils sont encore actifs d'une certaine manière. Mais bon, disons que le gros de leur carrière s'est fait entre 1970 et 1991. C'est quatre membres, donc j'ai déjà parlé de Freddie Mercury. C'est le chanteur très flamboyant, un compositeur vraiment aussi très important dans le groupe. Brian May, le guitariste frisé qui a construit sa propre guitare quand il était adolescent. Sa guitare, la Red Special, qui l'a suivi toute sa vie. Et ensuite, on a Roger Taylor, qui est le batteur, qui était le blondinet du groupe. Et quand j'étais adolescente, c'est lui que je trouvais le plus beau.
Oh.
Et finalement aussi, on a John Deacon, qui est le bassiste et un peu le silencieux de la gang. Moi, je l'appelle le George Harrison de Queen. C'est lui qui est En fait, il arrivait une fois de temps en temps avec une toune tellement bonne qu'il abattait les autres au palmarès. C'est lui qui a écrit « Another One Bites the Dust », qui est devenu le plus grand succès de Queen, même plus grand que « We Are the Champions »,« We Will Rock You » et « Bohemian Rhapsody ». Qu'est-ce qui est le fun avec Queen, c'est qu'ils ont plusieurs, ils ont abordé plusieurs styles et genres musicaux, comme par exemple justement le pop avec un peu plus léger avec Killer Queen, leur premier hit, le funk avec Another One Bites the Dust, du rock vraiment plus heavy, mettons avec un deep cut de leur dernier album qui s'appelle Innuendo, une chanson qui s'appelle Hitman, mais ils ont aussi fait dans la même chanson un peu d'opéra. Et là, je veux vraiment parler de Bohemian Rhapsody, que vous connaissez. Là, c'est une chanson qui est super connue. Elle commence avec une espèce de ballade très triste sur un homme qui est dans le couloir de la mort. Là, le bout opératique, il y a une espèce de rêve. Là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Et finalement, vraiment une section plus hard rock à la fin. Et le coda, en fait, l'outro, comme on dit en anglais, qui reprend un peu le thème du début. Juste pour faire la petite histoire, le contexte, cette chanson-là, Bohemian Rhapsody, a été enregistrée en 1975 dans le cadre de leur quatrième album de Queen. Donc, ça faisait déjà un petit moment qu'ils roulaient leur boss. Mais, hélas, ils avaient signé un contrat vraiment très mauvais avec une compagnie qui s'appelait Trident Productions. Trident Productions, eux autres, ils faisaient plein d'argent, mais Queen, ils faisaient pas une scène. Ils ont même, les patrons de Trident Productions ont poussé l'affront à s'acheter une voiture Rolls-Royce, alors que Roger Taylor, le batteur, n'était même pas capable de s'acheter des baguettes de drum. Donc là, ils se sont dit, on est vraiment tannés, c'est notre dernier album, à moins qu'il fonctionne, en fait, c'est une situation, ça passe ou ça casse. Donc, si ça fonctionne pas, on a refait le mieux qu'on fait. Et donc, ils sont vraiment dans une espèce de frénésie, de dépenses, de production à outrance. Et c'est comme ça qu'ils enregistrent Bohemian Rhapsody, en se disant, on n'a absolument rien à perdre, on va toutes mettre les idées qu'on a, on va toutes les enregistrer. Et ça a donné comme une toune avec, à certains endroits, il y a 180 overdubs. C'est quand même, tu sais, pensons-y, là, ils ont fait ça sur une console de 24 track, là, comment tu peux aboutir d'une console de 24 tracks à 180 qu'ils ont réussi. C'est une chanson qui est super complexe. Elle dure 5 minutes 55. C'était vraiment très long à l'époque, au point où tout le monde autour d'eux, leur gérant, Elton John aussi, qui était un de leurs amis, a dit publiez jamais cette chanson-là, sortez-la jamais parce que ça peut pas pogner auprès des radios, elle est ben trop longue. Mais Queen était un peu décidée. Ils sont allés voir un de leurs amis qui est un DJ à la radio en Grande-Bretagne qui s'appelait Kenny Everett. Kenny Everett a complètement trippé sur la chanson. Il s'est dit, ça va être numéro un pendant 1000 ans, cette affaire-là. Mais là, Queen, Steph Hurley en particulier, a convaincu Kenny Everett de pas la faire jouer parce qu'il pouvait pas, en fait, la faire jouer encore. Mais bien sûr, Kenny Everett aimait tellement la chanson. Le lendemain, il a parlé en ondes, il a dit... « Ah, j'ai entendu cette chanson-là de Queen, mais je peux pas vous la faire jouer, mais oh, mon doigt a glissé. » Et là, la chanson a commencé. Il a fait genre jouer 14 fois en 2 jours, ce qui est vraiment, vraiment immense. Et le hit a vraiment pris tout de suite, donc les lignes ne dérougissaient pas. Et il y avait des demandes spéciales pour l'écouter et la réécouter. Et c'est comme ça que c'est devenu un hit. Juste quelques chiffres... Ce single-là a vendu 6 millions à ce jour. En 1975, ça a resté 9 semaines au sommet des palmarès britanniques. C'est énorme, en fait. Le hit qu'il a accoté suite à ça, c'est en 1991, donc 15 ans, 16 ans plus tard, avec Bryan Adams, « Everything I do it for you ». Et je ne sais pas si vous vous souvenez de l'été 91, là, mais elle jouait tout le temps « Everything I do it for you ». Ça veut dire que Bohemian Rhapsody, elle jouait tout le temps. Suite à la mort de Freddie Mercury et aussi au film Wayne's World, dont nous allons beaucoup parler ce soir, la chanson a été ressortie en single aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et là encore, été au top du palmarès. C'est ça, c'est quand même... Il n'y a pas de remix, là. C'est pas un remix, c'est pas une reprise. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'est encore parmi les chansons les plus téléchargées de tous les temps. Il y a énormément de reprises qui ont été faites. On va en entendre une tout à l'heure. C'est une chanson qui est super populaire au karaoké. Oui?
Mais c'est moi, le revers de la chanson, qu'on pourrait dire, le revers de la médaille de cette chanson-là, c'est que live, elle n'était pas vraiment jouable aussi. Je ne sais pas si vous l'avez
entendu. Oui, c'est vrai.
J'ai entendu des versions live sur l'album Life Killers, par exemple. Là. Le bout opératique, ils ont mis en overdub
le bout, donc ça faisait comme juste arrêter, puis un tape jouait. C'était une chanson qui était vraiment difficile à faire jouer en spectacle, quand on sait en plus que Queen était un groupe de impérial,
vraiment,
spectacle,
oui, oui.
Un groupe de, le groupe d'Arena, leur chanson la plus connue, en fait, était presque injouable en spectacle. C'est ce qui fait un peu le revers de la médaille aussi de Bohemian Rhapsody, ce qui est un peu contradictoire aussi avec la nature du groupe Queen.
Oui, en effet, tu as tout à fait raison, Martin. Mais je me demande, moi, pourquoi elle a été aussi populaire que ça? Je suis arrivée à quelques pensées. C'est vraiment une chanson unique. J'en connais pas d'autres, des chansons qui changent autant au cours de la même track. Finalement, bien sûr, une des inspirations de Queen, c'est Led Zeppelin, puis on pense à Stairway to Heaven, mais Stairway to Heaven, elle prend tout le temps le même... Elle a tout le temps comme le même motif un peu qui est construit comme un escalier, carrément. Mais Bohemian Rhapsody, le passé de ballade à opéra, à hard rock, donc est vraiment unique et très reconnaissable. Et cette unicité-là fait qu'on ne se tanne pas, j'ai bien l'impression.
Moi, j'ai écouté l'année dernière à WFMU, la radio du New Jersey, il y a un animateur qui a mis 3 heures de cover de Bohemian Rhapsody.
C'était, 3 heures.
C'était une grosse job. Là.
Oui.
Moi, j'écoutais ça au bureau, puis je suis arrivé sur l'heure du midi, là, je ne savais pas qu'est-ce que j'ai entendu ce matin. Puis à un moment donné, l'animateur, il prend le micro, il dit là, honnêtement, moi aussi, je suis tanné. Là. Ça allait du vidéo du gossou en arrière du chef des deux.
Ah oui!
Et puis du Seigneur Coconut et n'importe qui. Mais... on voit en plus qu'il y a eu beaucoup d'hommages à cette chanson-là, c'est ce qui est quand même remarquable. Mais honnêtement, allez télécharger ça, ça doit être en podcast.
Oui, 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 absolument.
3 heures de
3 hours de Bohemian Rhapsody.
Oui.
Vraiment pour les fans.
Il y a... Oui, André?
Oui, ben je pense que qu'est-ce qui fait aussi qui pourrait expliquer un peu le succès de la pièce, c'est vraiment, c'est peu importe l'angle sur lequel on se penche, il y a toujours quelque chose à découvrir. C'est, je veux dire, c'est une histoire en soi. Je veux dire, c'est presque la chanson d'une tragédie grecque et je crois que...
Et dramatique, hein?
Oui, oui. Ouais. Puis même le vidéoclip aussi, il fait référence, mais je veux dire, le groupe, quand ils font leur propre back vocals, finalement, c'est à quelque part, ça renvoie un peu à l'idée du cœur de la tragédie grecque aussi, qui commence, qui arrive... au protagoniste, et on le voit aussi dans le vidéoclip, la fameuse pose iconique
des quatre
musiciens
figures, oui.
Fait un peu aussi cœur grec, justement. Alors c'est vraiment, il y a tellement d'angles, il y a aussi le fait, la pure joie qui s'en dégage, encore aujourd'hui, il y a une troupe d'humoristes, on le voit pas en ce moment, mais je fais des guillemets, d'humoristes, c'est 3 filles finalement,
oui,
qui ont fait une chorégraphie qui est
devenue,
ouais exactement, qui est devenue virale, qui reprennent un peu c'est un hommage à la pièce et aussi à Wayne's World, où est-ce qu'ils chantent la chanson. Ils font du lip-sync, en fait, sur la pièce, dans une voiture, et ils sont habillés de façon légère. Alors là, ça excite beaucoup de monde. Mais c'est ça, c'est une pièce qui... On dirait que c'est cyclique, vraiment. À chaque génération, elle revient se pointer,
elle
revient nous hanter.
D'ailleurs, c'est ça, c'est que peut-être que le ce bout opératique, dramatique, c'est la libération lors du solo, en plus. Là.
Il y a tellement de tension, résolution dans cette chanson. Le gong de la fin, là, ça fait...
Ouais.
Là, tu recommences. Yes. Tu remets la chanson.
Si je peux me permettre, moi, j'ai l'impression que ce qui fait, entre autres, le succès aussi de Bohemian Rhapsody, pardon, c'est que Queen a toujours été considéré comme un groupe, on peut dire peut-être expérimental, et sorti un peu des sentiers battus. Bon, on parlait de Led Zeppelin tout à l'heure. Effectivement, Led Zeppelin aussi a été cherché, bon, avec... tu as vu des chansons très, très longues, avec des sections instrumentales assez, assez chargées. Mais Queen, c'est... l'extravagance, c'est les idées qui sortent complètement du cadre. Bon, je pense à Don't Stop Me Now, des trucs qui disent ça n'a pas de bon sens, ça cadre pas dans l'espèce de pattern d'une chanson rock ou d'une chanson pop, c'est un mélange des deux. Il y avait des parties, ça sonnait effectivement, bon, même quand on parle pas des trames sonores qu'on fait pour les films, ça sonne musique de film. Et Bohemian Rhapsody, c'est tout ça, c'est... J'ai l'impression, en tout cas, je connais pas Queen parfaitement bien, mais de ce que je connais du groupe, selon moi, Bohemian Rhapsody, c'est à la fois quelque chose de très, très simple, parce qu'on s'en rappelle tout de suite, mais à la fois quelque chose, c'est l'apogée, selon moi, de Freddie Mercury. C'est Freddie Mercury, au meilleur de sa forme, Et c'est toute l'énergie du groupe qui est dans cette chanson-là. Et à ce moment-là, c'est ça, ça explose, finalement. C'est une espèce de lumière, c'est quasiment aveuglant, tellement
c'est dense,
omniprésent.
Ouais, ouais, ouais.
Moi, je dirais, par exemple, ce que
nous vas-y.
C'est que je dirais que c'est peut-être condensé de la face B de Queen 2, par contre, là, qui était comme...
Oui, ça, mais il faut être connaisseur.
Là, il faut être connaisseur. Ouais, ouais. C'est comme l'album sombre, mais... C'est comme la version condensée, c'est là qu'on a des on dirait que toute l'expérimentation vient de là, les petits bouts dramatiques de piano, l'explosion et tout, mais on l'a rendu d'une manière commerciale, mais en même temps, c'est vrai que c'est une énigme de l'avoir rendu commercial, cette chanson-là.
Et parce que, bon, Queen, d'un côté, il y a des choses très très simples, la mélodie de We Will Rock You, c'est extrêmement simple, et c'est pour ça aussi ça a
son succès.
C'est presque du rap.
Mais c'est trois mesures. Bohemian Rhapsody, c'est complètement à l'opposé. T'as quelque chose, c'est ça, justement. Il y a de la balade, l'opéra, il y a du rock, et ça...
Les polyharmonies.
C'est ça, ça éclate, ça explose. Ouais. Et c'est donc, c'est pour ça que ça frappe à ce moment-là. Et bon, tout à l'heure, on parlait de la chanson de karaoké.
Mm-hmm.
Moi, c'est la chanson un jour que je veux faire en karaoké. Ben, c'est la chanson que
je... C'est pas déjà fait, Hugo.
Chante-la en gang.
C'est pas un prix de ton plaisir.
Non, c'est ça. Mais c'est
fois.
La chanson que je chante à tue-tête quand je suis en voiture et que ça passe à la radio. C'est une des chansons qui, selon moi, représente le classic rock.
Mais on va... C'est, en fait, il y a tellement d'émotions dans cette chanson-là. Là. On a l'impression d'avoir vécu de quoi quand elle a fini. On va écouter, on va pas jouer la chanson de 5 minutes 55 parce que justement, on doute aussi, on a des préoccupations de temps. On va jouer, faire jouer la reprise de Weird Al Yankovic qui a fait Bohemian Polka.
Yes.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. To me. Mama, just kill the man. Put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gotta throw it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late. Yeah.
Comme faut qu'on le fasse. Comme André l'a dit tout à l'heure, chaque génération découvre Bohemian Rhapsody et je pense que la nôtre, celle qui est née des années 80, on l'a beaucoup découvert avec Wayne's World, un film culte qui est sorti en 1992, si je ne me trompe pas.
Excellent.
Oui. Excellent.
Méga doublé en français de France.
Oui, 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 absolument. C'est magnifique.
Je le connais par cœur, ce film-là. Et Hugo est justement ici pour nous parler des liens entre Queen et cinéma.
Oui, Queen, en fait, c'est ça. Bon, on me parlait à l'instant de Wayne's World. Mais si vous permettez, j'aimerais revenir un peu en arrière avant de m'attarder
oui,
sur
oui, oui,
le, ce classique du cinéma des années 90. Queen, effectivement, bon, on disait au début, en début d'émission, formé en 1970. En fait, dès 78, la pièce We Will Rock You était reprise déjà dans un film, le film FM.
Je ne connais pas. Est-ce que quelqu'un ici
connaît? Moi non plus.
Ça me dit absolument.
Par contre, quelques années plus tard, bon, le fameux Flash Gordon, donc Queen qui signait la bande sonore complète du film Flash Gordon. Par contre, on m'a suggéré avant de venir à l'émission de ne pas m'attarder sur Flash Gordon, donc on ne s'attardera pas.
En tant qu'ancienne fan, on va l'écouter tout à l'heure peut-être si on a du temps, mais j'étais dévastée la première fois que j'ai entendu. Mon cœur de fan était en miettes, puis j'étais comme, mais c'est Queen, je dois aimer ça.
En fait, j'aimerais, on peut peut-être surtout penser à Highlander,
oui,
le
oui.
film avec Christophe Lambert, où Christophe Lambert justement décapite les immortels à tour de bras. Voilà, avec la chanson Princess of the Universe.
Mm-hmm. Wants to live forever.
Voilà, une pièce un peu particulière, beaucoup de changements de rythme peut-être dans cette pièce-là. Ça m'avait un peu surpris. J'ai découvert cette pièce-là après avoir découvert bon, les classes plus classiques, chansons plus classiques de Queen. Je me disais, bon, est-ce que ça a été commandé comme ça?
Un semi-hit, oui.
Ouais, est-ce que ça a été commandé comme ça? Est-ce que le groupe a eu son mot à dire là-dessus? Un petit peu moins accroché là-dessus. Mais bon, évidemment, c'est ça. Queen, c'est certainement pas le seul groupe à qui on a commandé des bandes sonores complètes.
Mais c'est ça, il y avait le score aussi.
Oui, c'est bien fait pour Flash Gordon, c'est ça. Il y avait la bande sonore complète pour Highlander.
C'était les chansons.
T'entendais de la guitare.
Oui, oui, effectivement, puis, très, très, très
présent. Il y avait cette chanson plus rock dans la voiture aussi. Et puis... Mm-hmm.
Et bon, ça, je parlais de groupes qui ont fait des bandes sonores. On peut peut-être simplement rappeler Daft Punk qui a fait sans doute la meilleure partie de Tron Legacy,
oui,
c'est-à-dire la musique.
Ou Toto qui a fait Dune aussi.
Ah oui!
C'est bon, honnêtement, c'est vraiment...
Okay. Oui, ou bon, même Vangelis qui a fait la bande sonore de Blade Runner, ça, qui est devenu aussi iconique. Ce qui est intéressant de remarquer, par contre, on parle de Queen dans le 7e art, c'est à quel point les chansons de Queen sont entrées dans la culture populaire.
Oui.
On pense à des films de sport. Bon, vous dans les années 90, on avait le fameux « Let's Get Ready to Rumble » qui n'est pas une chanson de Queen, je peux vous rassurer. Mais on a « We Will Rock You »,« We Are the Champions ». C'est des chansons qui sont tellement entrées, ont tellement été reprises dans des films, surtout, comme je disais, des films de sport ou des films où il y a des enjeux comme ça, des trucs à aller accomplir à la dernière minute, que instinctivement, on est au stade, on est au Centre Bell, par exemple, et ça va être cette chanson-là qui va ressortir. C'est tellement simple
même
aussi.
Juste un moment de victoire, je pense, à High Fidelity.
Oui, il faut être champion pour chanter
One of the Champions. Je pense à High Fidelity, un de mes films préférés aussi, le personnage Rob, en fait, quand il couche avec une fille. We Are the Champions.
Oui, là, c'est pas assez d'occasion.
Cette chanson-là est tellement puissante qu'elle est reprise au cinéma, même lorsqu'elle n'a pas d'affaires. Là, il y a un film qui est sorti il y a quelques années, The First Night, avec Heath Ledger, avec des joutes de chevalier.
Oui.
Et non seulement We Are the Champions est repris, c'est comme ils ont fait un single Queen
avec
Robbie Williams. John Deacon avait détesté. Mais dans le film aussi, lors d'une joute médiévale, il y a le public qui font le fameux même si ça n'a aucun rapport, c'est un anachronisme, on s'est fait plaisir. C'est à quel point c'est irrésistible, cette chanson-là.
Moi, je pense à la scène, je ne sais plus quel film de Mighty Ducks, à la fin, ils sont autour d'un feu, puis ils chantent à la guitare « We are the champion ».
Ça, je ne me rappelais pas, par contre.
Ta culture personnelle,
Mighty Ducks. Je me rappelle de Emilio, quand même. Emilio Estevez, c'est du coin.
La formation en V,
voilà. Mais c'est drôle, André, que tu parles de Chevalier, j'allais justement parler.
Ah, excuse-moi.
Non, c'est parfait. Mais c'est ça, ce qui est intéressant aussi. Autre chose intéressante dans le lien entre Queen et le cinéma, c'est que non seulement la musique, parce qu'il y a une partie, bon, la musique sert d'appui, en fait, de soutien au scénario, mais il y a certains films où la musique de Queen est dans le scénario. Et carrément dans le scénario, c'est un élément central. On pense à Shaun of the Dead, le film avec Simon Pegg et Nick Frost, où il y a une scène dans le fameux pub, le Winchester, où c'est finalement l'endroit où ils vont se réfugier après avoir dit qu'ils n'iraient pas là pendant tout le film. Et il y a le fameux, le tenancier du pub, le patron du bar, qui est un zombie, et qui se lève. Et à ce moment-là, il y a le jukebox qui joue, pour une raison X, qui joue Don't Stop Me Now. Et t'as les personnages qui se mettent à frapper avec des queues de billard, se mettent à frapper le patron du bar en suivant le rythme de la chanson. Là, tu dis, bon, ben c'est ça. On passe carrément d'une espèce d'ajout musical à la trame sonore devient un élément central du scénario. Bon, un autre exemple qui me vient en tête, un autre film, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Fanboys, où c'est des jeunes fans de Star Wars qui décident...
C'est avec Jay Baruchel?
Oui, voilà, décident d'entrer dans le Lucas Ranch... George Lucas en Californie pour aller voler, c'est ça, une copie de La Menace Fantôme avant de savoir que c'était un film archi nul. Et il y a une scène où il rentre dans la mini fourgonnette d'un des personnages.
Faut dire que Hugo a un chandail Star Wars.
Oui, absolument, on voit pas en onde, mais bon. Voilà. Et donc, il rentre dans la camionnette d'un des personnages et il dit, passe-moi la musique, on va écouter une cassette. Puis là, c'est que Rush. Que de la musique de Rush. Et là, le gars, pourquoi c'est juste Rush? Et le conducteur de réponse, dans ma van, c'est « All Rush, all the time ». Et donc, c'est ça, c'est de voir cette transposition-là de la musique de... Bon, entre autres, ici, on parle de Queen, bien sûr. Mais c'est ça, la transposition de la musique comme élément central du scénario. Je reviens avec ça, justement, dans Wayne's World, donc Mac Myers et Dana Carvey. Voilà. Et donc, cette fameuse scène du début du film où ils sont en voiture avec leurs amis dans une Pacer bleue qui est absolument minable.
La Garde mobile.
Et donc, ils chantent... Ben, en fait, ils font du semi-karaoké, lip-sync, on sait pas trop, sur la deuxième partie de Bohemian Rhapsody. Donc,
à partir de l'opéra.
Oui, exactement. À partir de l'opéra jusqu'à la toute fin. Et tu dis, bon, qu'est-ce que ça fait là? Mais c'est ça. Moi, ça m'a permis de découvrir ou redécouvrir Queen à force d'écouter Wayne's World. Oh, c'est tellement beau, cette chanson-là. Et ça transpose l'esprit du film. On va dire des adolescents qui sont en... C'est le vendredi soir, je crois bien. Ils sont dans une banlieue de Chicago, ça a l'air...
Aurora, Illinois.
C'est ça. Et donc, c'est ça. Puis ils se mettent à chanter là-dessus, puis ils hochent la tête quand c'est le bout avec la guitare. D'ailleurs, j'avais lu les... Ben, en fait, j'avais regardé les extras du film qui disaient... Ils l'ont tellement fait souvent que Mike Myers n'était plus capable. Il avait mal dans le cou, il était tanné, il avait le cou complètement barré. Et on regarde le film, effectivement, quand c'est le bout, tout le monde hoche la tête avec l'espèce de metalhead, là. Et là, Mike Myers, il a mal. Il grimace, il bouge pas trop parce qu'il est...
Il bouge le moins.
On a aussi, bon... justement, Gart qui, à la fin, quand c'est le but plus calme, c'est vers la toute fin de la chanson, Gart a oublié les paroles. Il est supposé faire du lip-sync, il a oublié les paroles. Et
ça,
donc,
c'est un mystère pour moi. Comment ça que Penelope Spheeris, la réalisatrice, a gardé ce bout-là?
C'est Wayne's World, c'est n'importe quoi. Il y a des trucs qui ont dû improviser des lignes.
Je vois que son visage a l'air tellement paisible. Que j'imagine, on imagine que Dana s'est perdue dans le moment que Penelope l'a gardé.
Juste par rapport à Wayne's World, Mike Myers, à l'époque, en fait, je pense que la réalisatrice voulait que ce soit une chanson plus du moment. Et Mike Myers disait non, c'est Bohemian Rhapsody où je m'en vais et le film ne se fait pas.
Je savais pas.
Il avait été très, très strict là-dessus.
Effectivement, c'est comme je disais tout à l'heure, ça représente l'esprit du film.
Anyway, the wind blows.
Exactement.
Nothing really matters.
Et bon, en même temps aussi, si on veut plus terre à terre, ce bout-là, outre le fait que c'est très drôle, puis bon, que. On veut pas que... Comment il s'appelle le celui qui ramasse sur le bord de la route puis qui est la moitié sous?
Ah oui.
Phil!
C'est Phil, ouais, c'est ça.
Si tu veux, Phil,
là-dedans. C'est ça, il faut porter garant de sa non-évacuation. Et donc, soyons très terre-à-terre, ça permet de montrer le générique du film. Ça permet de montrer, à place d'avoir une séquence...
Ça présente les personnages.
Ça présente les personnages, je sais pas qui, l'assistant réalisateur, le gars qui apporte les cafés. Et donc, ça met en... C'est à la fois ça, c'est très, 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 très de combler du temps.
Mm-hmm.
Aussi plate que ça peut avoir l'air, ça permet de combler du temps. Et en même temps, effectivement, ça donne l'esprit du film. On a des adolescents rockers des années 90 qui sont encore dans le garage de leurs parents. On les voit jamais d'ailleurs, mais c'est le garage, c'est le sous-sol de la maison familiale,
oui,
le garage,
oui. Pas trop.
Qui habitent en banlieue, puis que vraiment, s'il n'y avait pas leur émission, ils feraient juste se balader en voiture. On voit un peu des panoramas de cette fameuse Aurora. Mm-hmm. Ça a l'air de n'importe quelle banlieue. Fait comment on s'amuse, on se promène en voiture.
Jouer au hockey.
Et donc, bon, et pour revenir à Queen, si on peut, c'est ça, bon, évidemment, il y a beaucoup d'autres exemples où la musique de Queen a été récupérée.
Récemment, il y a eu Guardians of the Galaxy, et moi, j'ai remarqué, en tant que fan de karaoké, que cette chanson-là est vraiment beaucoup plus populaire dans les karaokés mm-hmm. depuis Guardians of the Galaxy.
Mais c'est quelle pièce de Queen?
C'est Don't Stop Me Now, en fait.
Dans la bande sonore?
Oui.
Parce que je me rappelle surtout du Awesome Mix, le premier volume.
Selon plusieurs personnes, ça serait carrément un hommage à Shaun of the Dead dans Guardians of the Galaxy.
Ah, bon. Ben,
donc, c'est comme une espèce de double reprise, la chanson, qui fait qu'aujourd'hui, elle est vraiment plus connue que durant les années 90, qui était comme un sleeper hit, là, que pas grand personne connaissait là, à l'époque. Là.
Oui, mais j'ai l'impression, c'est ça, on a les grands classiques, comme on disait tout à l'heure, bon, We Rock You, We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, bien sûr. Mais j'ai l'impression, en tout cas, moi, personnellement, la première fois que j'ai écouté Don't Stop Me Now, je me suis dit, ça, c'est plus... Comment je pourrais dire? Je veux pas tomber du tout dans les préjugés, mais ça laissait peut-être présager... ou en tout cas peut-être qu'on était déjà carrément dedans, de la période un peu plus... comment je pourrais dire ça? Ça me faisait plus penser à la dernière chanson de Freddie Mercury qui était avant qu'il décède, là,
Living on My Own.
Living on My Own a été enregistré en 85-86, puis elle a ressorti en 92. Don't Stop Me Now, anecdote intéressante, Brian May, le guitariste, l'a jamais vraiment aimé chanson-là. Pour lui, c'est trop le lifestyle de Freddie
pour lequel il
était plus ou moins en accord parce que ben, c'est comme ça qu'il a attrapé le sida.
Oui, ben, c'est VIH. Ça, c'est exactement ce que je voulais dire sans vouloir chaque personne.
Mais même Brian May est comme...
Ouais. Mais c'est une bonne chanson, mais effectivement,
ouais, c'est une excellente chanson.
Ça sonne comme une pièce qui jouerait davantage. Moi, je pourrais dire ça, Seigneur, je suis en train de me creuser ma tombe.
On peut faire jouer de la musique.
Oui, peut-être, je pense que ça va être mieux comme ça. Bref, tout le monde a compris le sens de ce que je voulais dire. Mais ça, donc, Queen dans le cinéma, ça fait 40 ans que ça dure.
Oui.
Et ça risque sans doute pas de s'arrêter tout de suite. Ben évidemment, bon, ça va être sans doute les mêmes chansons. Il n'y aura sans doute pas de nouvelles compositions de Queen. Mais on va retrouver, c'est ça. C'est comme ça que l'image, j'ai l'impression que l'esprit de Queen reste présent. Parce qu'entre autres, on a tout le temps les mêmes 5 chansons qui jouent dans les films. C'est des très bonnes chansons. Mais c'est ça. Donc, c'est l'esprit de Queen qui perdure. Et pour les gens qui n'écoutent pas la radio, pour les gens qui sont moins les oldies, si on veut, de savoir que, bon, dans un film de science-fiction comme Guardians of the Galaxy, qu'on ramène non seulement Queen, mais également des chansons des années 70. Ça a été un énorme succès. Et donc, ça risque de se poursuivre pendant longtemps.
Il y avait Stone Cold Crazy dans Encino Man.
Ah oh, oui, je me souviens de ça.
J'ai une très grande culture. Hein.
Quand ils vont au parc d'attractions, c'est le montage du parc d'attractions.
Ah, mon Dieu, j'avais complètement oublié.
Donc, on va écouter, si ça vous va, on va écouter le thème de Flash. Donc, cette chanson si bizarre de Queen.
Everybody, 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 ever Ajax to bring back his body.
Donc, on a seulement 14 heures pour sauver le monde.
Oui, en effet. C'était donc, précis.
Oui, c'est précis quand même. On a parlé donc de tous les liens entre Queen et cinéma. En fait, Queen fait de la musique qui est souvent jugée très picturale. Mm-hmm. Et c'est justement de ça dont André va nous parler, en fait, des vidéoclips de Queen.
Oui, en effet, je me suis fait plaisir. J'ai visionné plein de vidéoclips de Queen. Bien sûr, il y a autant d'interprétations de vidéoclips que des fans de Queen. Alors, et le temps nous presse. Flash Gordon à 14 heures. Nous, il nous reste 25 minutes à peu près.
Ouais.
Alors, j'ai rassemblé ça sous trois pôles. J'ai rassemblé les principaux vidéoclips de Queen sous trois pôles. Mais avant, ça, j'aimerais parler de l'intérêt de Queen pour le médium qui est le vidéoclip. Parce que le groupe Queen, en plus d'être génial, compte parmi les premiers artistes assez intéressés au médium du vidéoclip, qui était un peu à la naissance et un peu aidé aussi à dresser un peu le vocabulaire, finalement, du vidéoclip contemporain.
Oui.
Parce qu'avant, disons, avec les Scopitones et tout ça, c'était vraiment c'est comme on faisait ça un peu comme de la saucisse, prestation et c'est tout. Mais ça, c'est un amour de l'image. Non seulement on la retrouve dans Freddie Mercury lui-même et son image qu'il projette de dandy,
oui.
Mais c'est ça. Puis aussi, on peut imaginer aussi que cet amour-là pour le vidéoclip peut aller, on peut remonter jusqu'aux études de Freddie Mercury en théorie de l'art et en graphisme aussi.
Oui,
Roger Taylor aussi était, en tout cas, se posait des questions sur l'importance du vidéoclip sur Radio Gaga, cette lettre d'amour à la radio finalement. On parle de la vidéo sans vraiment la dénoncer, là, mais elle est quand même suscitée. Puis c'est ça, c'est pour revenir au point dont je disais qu'on doit à Queen un peu le vidéoclip contemporain, c'est avec finalement le vidéoclip de Bohemian Rhapsody qui est sorti en 75 si je me rappelle bien, qui est considéré par plusieurs penseurs, plusieurs mélomanes aussi, comme l'un des premiers vrais vidéoclips parce que c'est non seulement une chanson ambitieuse, mais le clip aussi qui l'accompagne était quand même assez ambitieux puis a aidé à créer, comme je vous disais, le langage du vidéoclip comme qui était plus tape à l'œil finalement qu'est-ce qu'on pouvait faire en Scopitone. Il y avait des effets spéciaux, les espèces de visages décalés. Oui. Il y avait aussi des scénettes rock qui rappellent un peu que le vidéoclip est avant tout un outil promotionnel. Et aussi, le vidéoclip vient appuyer le propos de la pièce, comme je vous parlais tantôt, la fameuse pose iconique qui rappelle un peu le cœur de la tragédie grecque, ce qu'on retrouve aussi dans la chanson.
Mm-hmm.
Et fait que c'est ça, Queen, en plus d'être un groupe qui expérimentait beaucoup avec la musique, leurs premiers albums, c'était très prog, les paroles étaient un peu médiévales des fois, qui parlaient de fées, Ogre Battle et tout ça.
Vrai.
On a touché à la pop, au disco, on a The One Bites the Dust, au rock, au heavy metal, et c'était un peu ça aussi visuellement parlant. Alors, et pour faire suite justement à Hugo, en plus de avoir contribué à des trames sonores Flash Gordon, Highlander, on suscitait aussi le cinéma dans plusieurs vidéoclips de Queen, comme par exemple dans Bicycle Race, par exemple. Mm-hmm. On suscite Star Wars au passage.
Oui, oui.
Le clip pour la pièce Heaven for Everyone qu'on retrouve sur l'album Made in Heaven, mm-hmm. qui est l'album posthume, oui. finalement. On y retrouve des extraits du classique d'un des premiers films, d'ailleurs, de l'histoire, Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Pour revenir encore à Radio Gaga, mon Dieu, cette pièce aurait été une pièce fondatrice sans le savoir. C'est évidemment un hommage au classique des classiques de Fritz Lang, Metropolis, oui, qui est 1927. Je crois même qu'il y a des images de Metropolis dans le vidéoclip, en plus d'en recréer. Dans la vidéoclip aussi de I'm Going Slightly Mad, on continue avec le cinéma allemand, mm-hmm. et qui est quand même un petit exploit quand même en soi, parce qu'on a un Freddie Mercury qui est en fin de vie, qui est malingre et qui est blanc comme un drap. Qu'est-ce qu'on fait pour le faire participer à un vidéoclip?
On accueille les autres en blanc.
Ouais, exactement. En fait, on en vient à un vidéoclip qui suscite l'esthétique de l'expressionnisme allemand.
Ils sortent en noir et blanc, ils l'ont beaucoup maquillé aussi, en plus.
C'est ça, puis les ambiances sont glauques, les éclairages sont zéro subtils, soit c'est noir, soit c'est blanc, et vraiment, on suscite aussi l'expressionnisme allemand dans un peu la trame narrative du vidéoclip, qui est à l'image un peu de la pièce. Dans la pièce I'm Going Slightly Mad, ça raconte un peu la descente aux enfers de Freddie Mercury, qui a confié à des amis que depuis que c'est les complications du sida, et je veux dire, il ne sentait pas aussi allumé dans sa tête, finalement. C'est comme I'm Going Slightly Mad, justement. Et dans ce vidéoclip-là, on voit un Freddie Mercury qui a de l'air épouvantable.
Il y a comme une perruque aussi.
Exactement.
Qui donne un peu l'air d'un ananas.
D'un ananas ou d'un scientifique fou.
Oui, oui, oui.
Et c'est ça qui est un peu répudié par les autres membres de la formation. Fait que c'est ça, à cause du sida, c'est un peu un paria. Même si on l'a appris vraiment à sa mort que c'était.
24 heures avant, oui.
Exactement. Mm-hmm. Mais les médias britanniques rapportaient couramment que Freddie Mercury était malade en fin de vie. Et c'était un peu sa réponse à ça. Là. Lâchez-moi les baskets. J'aimerais aussi vous parler du vidéoclip de I Want to Break Free, parce qu'il sert de pont à deux pôles, finalement. Là, c'était pas un hommage au cinéma, mais c'est un hommage à une série britannique, un téléroman, là, une espèce de soap qui s'appelle Coronation Street.
Le plus vieux téléroman au monde.
Ouais. Est-ce que ça perdure encore?
Je pense que oui.
C'est fou raide, c'est comme un peu...
Ça joue à CBC, là, pour les nostalgiques de la Grande-Bretagne.
C'est incroyable, il y a ça,
Canada.
Puis Dr. Wu, c'est immortel. c'est tout ce qui va rester quand il va y avoir une bombe atomique qui va me tomber dessus. c'est ça, dans le fond, on retrouve dans plusieurs scènes de cette vidéoclip-là, on retrouve des queens déguisant personnages féminins de cette série-là. Et ce que je trouve vraiment fascinant avec ce vidéoclip-là, c'est qu'à un moment donné, on voit Freddie Mercury en ménagère avec sa grosse moustache. Il y a des scènes où est-ce qu'il fait de la danse classique avec une troupe.
Ballet,
là, il n'y a pas de moustache.
Non.
Mais pour se travestir, je garde ma moustache. Fait intéressant, il y a plusieurs personnes connaissant l'orientation sexuelle de Freddie Mercury aux États-Unis qui trouvaient que c'était une idée controversée, mais en fait, c'est une idée de Roger Taylor d'en venir à ça. Et encore plus...
Et la chanson avec John Deacon, c'est même pas un hymne...
C'est ça.
C'est comme devenu un hymne homosexuel.
Mais seulement aux États-Unis, parce qu'en Angleterre, tout le monde a vu le clin d'œil comme « Haha, ils sont super drôles ».
C'est camp, ouais, c'est ça.
Ouais, je pense que même à l'époque, il y a des gens qui étaient comme « Mon Dieu, Roger Taylor en jeune fille, là ». Mais on passe aux États-Unis, et là, MTV refuse de diffuser le vidéoclip. Et c'est ce qui nous mène au deuxième pôle, un certain goût pour le scandale. Plus surprenant encore, c'est pas le premier vidéoclip de Queen qui va avoir été censuré par MTV.
Ah ouais, t'as
essayé
de penser.
Ouais, on va y venir. Bien avant MTV, il y a aussi le vidéoclip pour Bicycle Race qui a soulevé aussi un petit débat quand même. Le clip est quand même essentiellement une course avec 65 jeunes femmes nues. Fait que déjà, c'est comme bon, on se calme. Et,
c'était leur stunt promotionnel pour la sortie de l'album Jazz. Donc, il y avait.
Exactement. Et ça va écouter. Ouais, c'est ça. La pochette du 45 tours, c'est une photo tirée du vidéoclip. Ouais. Et on a peint vraiment, et ça paraît que c'est peint, là, c'est pour répondre à la censure. On a peint des petites culottes sur une des jeunes filles.
Oui.
Et aussi, qu'est-ce qui fait que certains pressings de l'album, de ce single-là, est aujourd'hui évalué à des centaines de dollars sur eBay ou etc., c'est qu'aussi, en certains pressings, on retrouvait une affiche des jeunes filles là-dedans. Et à l'époque, les jeunes garçons, c'est ça, l'arrachait, j'imagine.
On n'a plus les pubs qu'on avait pour les albums.
Et en effet, j'ai hâte de voir ce que...
Non, je pense qu'aujourd'hui, les mouvements féministes, ils n'aimeraient pas vraiment ça.
Ouais, en même temps...
Avec Fat Bottom Girl sur la side B.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai, exactement. ça passait pas le test aujourd'hui, ce qui nous ramène un peu au scandale. Il y a aussi le vidéoclip pour Body Language qui est sorti en 82.
Oui. Hey, il a été filmé à Montréal, ce clip-là.
Ben, tabarn... Vraiment?
Oui, oui,
j'avais
je
aucune
jure.
Idée. Mm-hmm. Wow! Oui. Ben, tabarnouche. Et ça, c'est le premier vidéoclip qui a été censuré de Queen. Et c'est aussi le premier vidéoclip qui a été banni de MTV. Pourquoi?
Tout
bien,
en honneur.
Oui, en effet. Queen a vraiment pavé tous les pavés. Pourquoi ça a été banni? Ben, pour les jeunes, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, c'est vraiment un vidéoclip qui a une grande charge homo-érotique. Et on se rappellera qu'en 82, une Amérique puritaine, une Amérique sous Reagan, alors ça passait pas le test. Et puis c'est ça, c'était vraiment des
il est très sexu, là. C'est
ouais, 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 vraiment, ça donne le goût. Un petit feeling. ça, c'est des images de corps d'hommes et de femmes
huilés
en sueur, habillés un peu en cuirette et dans un décor qui fait un peu sauna j'apprends maintenant à Montréal.
Oui. Ben, je pense que ça a été filmé dans un sauna. D'ailleurs.
Ben, ça aurait l'allure. Vraiment, ça fait très sauna des années 80, d'ailleurs. Alors, c'est ça, déjà, Queen repoussait aussi les limites visuellement parlant. Et aussi un pôle qui fait très. Qui vraiment. Est à l'image de Freddie Mercury. La croyance populaire veut que le dernier commandement que Freddie Mercury a donné à ses collègues, c'est vraiment « faites ce que vous voulez de moi, de la musique, rendez-moi pas ennuyant ». Et c'est des dernières paroles célèbres, mais aussi qui est un peu un leitmotiv, parce que tout au long de la carrière, on dirait que Queen et ou Freddie Mercury a fait son possible pour demeurer justement à l'avant-plan, comme créer sa propre légende, je dirais. Tout d'abord, il y a de nombreux clips qui reprennent du visuel en concert de Queen, parce que c'était quelque chose en concert. Je veux dire, on parle encore de leur prestation à Live Aid. Mm-hmm. Si on peut en cibler quelques-uns, il y a le vidéoclip pour One Vision qui est vraiment une espèce de boucle de Mobius, parce que on voit le groupe écrire et enregistrer la pièce. Puis là, on revient au vidéoclip, c'est comme c'est l'œuf ou la poule. Et aussi, non seulement ça, mais on fait aussi des clins d'œil à d'anciens hits de Queen, dont à un moment donné, à quelques reprises, on voit la fameuse image iconique de Bohemian Rhapsody, mais interprétée à l'époque, en 1985, donc 10 ans plus tard.
Même
position, mais avec un look différent, avec Freddie Mercury, les cheveux courts et la fameuse moustache. Écoutez, le clip, si on veut parler du mythe Queen, ça serait sûrement The Show Must Go On, qui a quelque part un... De prime abord, ça a l'air d'un best-of, finalement, des meilleurs moments sur scène de Freddie Mercury. Ils n'ont pas inventé ça. Il y a beaucoup de vidéos d'artistes, finalement, que surtout quand on va parler d'albums live, qui vont reprendre un peu cette saucisse-là. Mais je trouvais ici que ça sert beaucoup, non seulement le propos de la chanson, mais aussi la carrière de Queen, parce que ça, quelque part, c'est le chant du cygne. C'est la dernière pièce du dernier album de Queen, alors que Freddie Mercury est vivant. Et à quelque part, je trouve que ça renvoie un peu à l'idée qu'on a souvent de la personne mourante qui se passe le film de sa vie avant d'en arriver.
Parce que c'est pas seulement en fait des bouts live, c'est des bouts de vidéoclips.
Oui.
Et sont succédés de sorte à ce qu'on dirait qu'ils miment les paroles de la chanson.
Oui, exactement.
Le synchronisme est vraiment très, très bien exécuté.
C'est vraiment un beau travail de montage. Oui. On l'avait déjà fait auparavant, mais ça n'avait pas le même effet, peut-être parce qu'on n'avait pas le même rapport à cette pièce-là, vu que c'est la dernière de Freddie. Mm-hmm. OK, c'est sur...
Il était mort quand c'est sorti. Il était déjà décédé.
Exactement, oui.
On le savait.
C'est ça, c'était malheureusement. Fait que là, pas aussi affecté, mais mon Dieu, on dirait que c'est ma pièce préférée. Mais pour revenir à Radio Gaga, là, il y a un extrait de la pièce à un moment donné où est-ce qu'on voit une famille de prolétaires qui sort un album de photos comme des photos de la belle époque. Et quand on l'ouvre, c'est des extraits de vidéoclips de Queen qui passent, dont Bohemian Rhapsody et des trucs genre.
Donc déjà en 84.
Déjà en 84, on se regardait déjà dans le miroir. Mm. C'était très dandy. Fait que c'était un peu ça qui fait un peu le tour. Bien sûr, comme je vous disais, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait aborder dans le vidéoclip, mais compte tenu du temps qu'on a, on n'a pas 14 heures comme Flash Gordon, alors on va s'en rappeler pour le cinéma, le goût de la controverse
et on va, et on le va culte. Skipper la dernière toune et on va tout de suite passer à Martin.
Fantastique.
Qui veut nous parler de l'immortalité, justement, et du mythe Freddie Mercury. On a un peu parlé, mais...
En tant que sociologue, c'est ça, moi, je m'intéresse surtout souvent à la création de mythes. Donc, je me suis penché sur comment on a créé le mythe de l'immortalité chez Freddie Mercury. André, mon cher ami André, vient de parler justement de plein d'icônes qui ont marché lors de la mort de Freddie Mercury. la mort de Freddie Mercury est arrivée à un moment où, justement, qui était subi parce qu'il a joué le jeu de la vedette jusqu'à sa mort. Mais la mort, il a continué avec sa mort, puis il y a eu plein de... Ça a corroboré avec plusieurs éléments. D'ailleurs, le film Wayne's World en est une aussi, qui a propulsé étrangement Bohemian Rhapsody au 5 à 5 à Musique Plus en tête pendant des semaines.
Un vidéoclip.
Et au Billboard, au numéro 2 au Billboard. Hein. Et en même temps, à la même époque, on est à la naissance justement du sport spectacle. Les chansons sont redevenues. On a ressorti aussi en single We Will Rock You qui a atteint le 52e numéro 52 au Billboard à la même époque.
Wow.
C'était... Je crois pas qu'une personne ait... Parce qu'on n'a pas connu non plus de déchéance chez Queen. On n'a pas connu une baisse. On a connu certaines baisses de ventes à la fin de la carrière de Queen. Mais on n'a pas entendu... Il n'y a pas une fin comme Elvis. On n'a pas entendu ça.
Non,
puis on a célébré la mort de Freddie Mercury. Quand Rod Stewart est mort, on n'a pas célébré sa mort
Il n'est pas mort.
Rod Stewart est mort?
Ah, c'est vrai?
Hélas, on a tous hâte.
je pensais qu'il était mort. En tout cas. Mais on a célébré la mort dans un spectacle international.
C'était
incroyable.
Oui, en avril 92.
En avril 92, on a rassemblé en plus Liza Minnelli avec Elton John. Et
Metallica
et Spinal Tap.
Spinal Tap était
et
là.
On
m'expliquera pourquoi, mais bon.
Et aussi, il y avait eu aussi, quelque part, un rapprochement entre Axl Rose
et Elton John.
Et Elton John
qui
se détestait à l'époque parce que je crois que Axl Rose avait fait des commentaires homophobes que Elton avait dénoncé. Alors, quelque part, il y avait eu un événement dans cet événement-là. Ouais, c'est incroyable.
On s'entend en plus que c'est peut-être un des derniers grands spectacles de nos jours. On a plusieurs manières de consommer de la culture, mais à l'époque, on avait la télévision, la radio, c'était une culture assez unitaire. Puis c'est peut-être le dernier des grands spectacles où on a ramassé des fonds pour une cause qui rassemblait la planète au complet. Puis ça a aidé à propulser la légende de Freddie Mercury, en plus qu'on voit apparaître dans les palmarès, réapparaître Queen, mais c'était pas des versions, c'était les versions originales, parce qu'on peut pas faire une deuxième... Ça aurait été un crime de lèse-majesté de réenregistrer Bohemian Rhapsody. En plus, on avait l'album Innuendo, justement, que tu viens de parler de cette merveilleuse chanson Show Must Go On, qui était comme un genre de chant du cygne aussi, qui était... Moi, ça me prend cette chanson-là à toutes les fois que je l'entends. Ouais. C'est devenu un classique instantané de Queen. Ça n'a pas monté au Billboard à des quantités industrielles, mais c'est devenu un classique de Queen aussi. Ce qui a continué, et ensuite, ils ont continué la magie de la transition vers l'immortalité de Freddie Mercury s'est faite assez facilement. On a vu réapparaître aussi ce fameux remix de Living on My Own.
Oui.
Moi, à l'époque, j'étais un peu trop punk pour ça. Là. Genre, c'était un peu trop de la musique de Gino. Là, on a vu la continuité se poursuivre.
Joué,
mais le tout est arrivé. Cette transition vers l'immortalité, je crois que c'est Made in Heaven. C'est
en 95, l'album qui est sorti.
C'est là qu'on a bouclé la boucle, je crois, avec Freddie Mercury. On a rendu hommage à Freddie Mercury comme il se devait. Il n'y a pas beaucoup d'artistes dont on a fait des albums posthumes en reprenant ces tracks réenregistrés avec les derniers enregistrements qui sonnent vraiment aussi vrai qu'un album Made in Heaven. Free as a Bird, on sait que c'est pas du Beatles.
Il y a beaucoup de fioritures autour.
C'est ça. Nommez-moi des chansons comme ça. Il n'y a rien qui sonne comme Made in Heaven parce que c'est fait à deux concerts. Parce que Queen, c'est un des rares groupes que tous les membres ont toujours été ensemble, été très soudés ensemble. Et puis, on entend des versions, des choses enregistrées dans les années 80, des chansons plus rock, le retour au rock de Queen aussi, qui était... ils n'ont jamais vraiment délaissé le rock, mais...
Parce qu'il y a une phase disco là, avec Hot Space, c'est surtout à cause de ça.
C'est ça, ouais. Mais il y a le retour aussi à ça, mais au centre, t'as la fameuse chanson Mother Love, qui est la dernière pièce qui a été enregistrée. D'ailleurs, je crois que Freddie Mercury n'était pas capable de finir l'enregistrement.
En fait, il avait dit... il a chanté deux couplets.
C'est ça.
Puis il s'est dit le troisième... Il avait dit à Brian May, le troisième couplet, je vais revenir demain. C'est la prochaine chose que j'enregistre. Puis il n'a jamais été capable.
Je crois en mai 1991. C'était presque 6 mois avant sa mort. C'était... Puis on le sentait déjà faible aussi.
Ah oui, mais la tune...
On sait que ça achève quand on entend aussi
ça. Je trouve pas, justement. Je trouve qu'il sonne puissant, là. Pis, wow.
Justement, après, puis t'as comme l'enregistrement live à Wembley qui fait des « C'est la régénérescence. C'est là qu'on... Il y a un hommage dans Made in Heaven qui est grandiose. C'est un hymne à la vie, premièrement, aussi. Là, c'est comme un commandement ultime de « Élevez-vous ». Puis c'est écrit à l'arrière. C'était quoi la dédicace à l'arrière? C'était... dédié à l'âme immortelle de Freddie Mercury, une chose comme ça, ben c'était exactement ça. C'est comme ça qu'on a élevé Freddie Mercury au rang d'immortel, je crois. Parce que le mec ne voulait être une légende. Il se l'est joué comme une rockstar toute sa vie, comme un être plus grand que nature. Puis il est mort sans connaître de déchéance. Puis il est ainsi rentré dans l'immortalité. Parce que, comme on le dit depuis le début, Queen est un groupe qui va se régénérer de toujours. On n'a pas besoin de... Le son des albums sont presque tous parfaits. Il y a des choses moins bonnes. Moi, c'est sûr que moi, j'ai les trucs Radio Gaga, ça m'intéresse moins. Mm-hmm. Mais reste que le travail du son, déjà, dans le son de Queen, traverse des générations. Puis il n'y a pas beaucoup de groupes comme ça qui traversent les générations. Même le catalogue au complet là, de Queen peut traverser les générations. C'est sûr qu'il y a un son qui date d'une certaine époque, mais... Je crois que Freddie Mercury et ses copains, parce que tu sais, il ne faut jamais enlever le travail des autres membres de Queen, qui est grandiose aussi.
Oui, oui.
D'ailleurs, Roger Taylor, c'est quand même la personne qui chante les parties les plus aiguës dans tout, la plupart des chansons où il y a des falsettos.
Oui, c'est lui.
C'est Roger Taylor qui chante. Mm-hmm. Il y a des chansons comme sur le fameux Queen 2, Ogre Battle, même, ils sont trois à chanter les paroles. Et puis,
En fait, c'est les trois chanteurs, c'est Brian May, Freddie Mercury, Roger Taylor, John Deacon... chantait très mal, apparemment. On n'a jamais entendu sa voix, donc je ne sais pas. Mais c'est... Puis leur voix était... Ça, c'est un peu un hasard de la vie. Leur voix, elle vraiment se mêlait très, très bien.
Ouais.
On va terminer là-dessus. On doit terminer là-dessus. Donc, je vais mettre la chanson Mother Love pour faire le lien avec la prochaine émission. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Ça a été une heure vraiment très instructive. Même moi, qui est une fan de Queen, avec cette marque indélébile sur moi, j'en ai beaucoup appris, donc merci beaucoup. Et c'est la fin de Pop en Stock. La semaine prochaine, de manière exceptionnelle, Jean-Michel, mon Dieu, c'est la première fois que je l'appelle de même en plus. Jean-Michel et moi sommes dans un avion et même pas le même, donc la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. On se revoit dans deux semaines, le 7 octobre. Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Global News Montréal vous invite à la première québécoise du film Sweet Mickey pour président, en ouverture officielle du 11e Festival international du film Black de Montréal, le mardi 29 septembre au cinéma Impérial à 19h. Sweet Mickey pour président mettant en vedette Michael Martelly, Wyclef Jean, Bill Clinton, Sean Payne et Ben Stiller, en présence du producteur Price Michel, fondateur du groupe Fugees. Billets en vente sur montrealblackfilm.com au coût de $25. Un événement de la fondation Fabienne Cola.
Salut, t'es un jeune créateur professionnel? T'as un spectacle à proposer dans n'importe quelle discipline des arts vivants? T'as jusqu'au 30 octobre pour le faire à vuesurlarelève.com. Depuis 1996, Vue sur la Relève a servi de tremplin aux